Vous écoutez Secrets d'Histoire, Toussaint l'Ouverture, la liberté à tout prix. Troisième partie.
Il savait que ça allait mal finir, mais il était assez prêt. Il a passé l'année à envoyer des salines, rectifier les fortifications.
Dany Laferrière, membre de l'Académie française.
Il avait acheté des armes aux États-Unis. Il en avait acheté beaucoup, qu'il avait mis dans des caches dans les montagnes.
Face à Toussaint l'Ouverture, l'armada du général Leclerc est très bien organisée, comme le montre cet état des troupes.
L'expédition Leclerc, en réalité, s'est articulée autour de trois envois successifs qui se sont suivis, qui font un total à peu près de plus de 43 000 soldats.
Christian Bloch, chargé de collection au musée d'Aquitaine.
Essentiellement de l'infanterie de ligne. Donc on voit que ce sont des unités terrestres. Il y a également de la cavalerie et puis nous avons également des artilleurs, il y a de l'artillerie. On voit que les moyens ont été donnés pour vaincre Toussaint l'Ouverture et les insurgés, pour essayer de parvenir à ce qu'on a appelé à l'époque la pacification de l'île.
D'arriver avec 86 bateaux et de dire aux gens « on est venu pour la paix, pas de problème, peace and love », c'est prendre les gens pour des imbéciles. Ben, vous venez pour rétablir l'esclavage. De toute façon, vous veniez juste de le faire en Guadeloupe alors.
Toussaint comprend que c'est la guerre qu'on lui veut et donc il entre tout de suite en résistance. Il accueille l'expédition Leclerc à coups de canon. Il tire le premier parce qu'il a bien compris que sinon c'est lui qui disparaîtra.
Toussaint va se défendre pied à pied comme il pourra. Il va y avoir des combats terribles.
Au fond, ça va être un peu sa campagne de France comme Napoléon. Il va reculer progressivement.
Jean-Christian Petit-Fils, historien.
Il va pratiquer la politique de la terre brûlée. Détruisant des cultures, détruisant des plantations pour gagner du temps et puis pour essayer de reprendre l'offensive.
Et petit à petit, tous les combats tournent à l'avantage du général Leclerc, qui en plus est un excellent stratège, un excellent militaire. On l'appelle le Bonaparte blond, hein. Il a les mêmes qualités que son beau-frère.
Pierre Branda, historien.
Et arrive à vaincre les troupes de Toussaint l'Ouverture.
Puis ces deux lieutenants, Dessalines et Christophe, vont se rendre. Et donc, vont changer de camp.
C'est une réelle trahison vis-à-vis de Toussaint. Hein. Il est abandonné par ses généraux, qui sont ses lieutenants, qui sont eux aussi des ambitieux.
Et ils vont servir dans l'armée de Leclerc, donc trahissant leur chef, lequel se trouve isolé. Lui va négocier sa reddition, va lui faire des promesses, comme quoi d'ailleurs l'esclavage ne serait pas rétabli.
Toussaint accepte de se soumettre et signe un armistice. Est-ce par stratégie ? Le mystère plane encore sur ses intentions.
Toussaint s'est offert. Et en s'offrant, Toussaint a accordé plus de temps à son armée.
Et je crois même que Toussaint lui-même s'est dit « qu'est-ce que je risque ? Si on me prend, ça ne fera que raviver la révolte. Et moi, je passerai pour un saint martyr. J'inscrirai mon nom dans l'histoire. » Il pense à ça, Toussaint. Il a une très longue vue.
Il accepte de vivre dans sa maison d'Henry, près de la côte. Et 4 semaines plus tard, on va le convoquer pour des discussions.
Sous prétexte de conseil à lui demander pour la gestion des événements, on le fait venir sur une habitation voisine et celui qu'il a convoqué s'éclipse au milieu du repas, comme par hasard.
Toussaint l'Ouverture va tomber dans ce piège et ne pas opposer de résistance et être arrêté pour ne jamais plus être relâché et tombe aux mains de Leclerc.
Une fois capturé, Toussaint l'Ouverture embarque pour la France, mais il n'est pas seul. Sa femme, ses fils et ses proches l'accompagnent. Toute sa vie, il aura placé les siens avant toute autre chose. Aîné de 5 enfants, Toussaint devient chef de famille à 20 ans, lorsque ses parents disparaissent. Il se marie 2 fois, avec Cécile d'abord, puis avec Suzanne, et dira avoir eu 16 enfants au total. Après 24 jours de traversée, Toussaint débarque à Brest le 14 juillet 1802. Sa famille est envoyée à Bayonne et il ne la reverra plus, car une autre destination l'attend.
Après avoir lanterné un bon moment du côté de Brest et Landerneau, on le transfère en fourgon cellulaire au fort de Joux.
Jacques de Cona, historien.
On endroit qui n'est pas choisi par hasard. C'est une forteresse très impressionnante, mais surtout très froide, très isolée. Bonaparte veut lui montrer qu'il n'y a pas de porte de sortie et veut lui faire subir des conditions de détention très difficiles dès le début.
Pour un homme du Sud, Toussaint a eu le grand froid du Jura.
Il a été dégradé pour l'humilier. On l'habille en paysan, c'est fini, il n'est plus général. Et là, il n'est plus rien, il est anéanti.
Il écrit tout le temps à Bonaparte pour lui demander d'être jugé militairement. Et c'est pour cela qu'il écrit ses fameux mémoires, deux mémoires, dans lesquelles il justifie ses actions militaires et sa réaction face à ce qu'a fait Leclerc.
Il ne comprend pas pourquoi Bonaparte le traite aussi durement. Donc il rappelle tous ses services. Il rappelle que c'est lui qui a gardé Saint-Domingue à la France contre les Anglais. Et il espère que, de général à général, eh bien, son discours puisse être entendu, ce qui ne sera pas le cas parce que Bonaparte restera totalement sourd et ne lui répondra jamais.
C'est un homme qui a mené sa vie avec une vitesse affolante et brusquement, il est à l'arrêt total. Dans une petite chambre.
Après la capture de Toussaint Louverture, Bonaparte pense que Saint-Domingue va très vite se soumettre au texte qu'il vient de faire voter par le consulat pour rétablir l'esclavage.
Les combats reprennent quand Saint-Domingue apprend le décret du 20 mai 1802 et les lieutenants qui avaient trahi, abandonné Toussaint vont à nouveau changer de camp, rallier une insurrection des esclaves.
Dessalines et Christophe n'avaient pas trahi Toussaint du tout, c'est qu'ils avaient besoin de temps.
Les troupes noires vont se rebeller, tenir la dragée haute aux soldats de Leclerc, résister, bref, la guerre va s'intensifier.
Ils ont fait la guerre jusqu'à la mort à Leclerc.
Et minés par la fièvre jaune, les soldats de Leclerc vont petit à petit perdre la partie.
Les troupes régulières sont très mal en point, il y a des fièvres, des désertions. Leclerc va mourir de fièvre jaune.
Quand Leclerc disparaît, c'est le général Rochambeau qui devient capitaine général de Saint-Domingue et donc commande les troupes françaises. Rochambeau, par rapport à Leclerc, est un militaire cruel. C'est, disons-le, il va commettre des crimes de guerre absolument atroces à Saint-Domingue. Lorsqu'il capture des anciens esclaves, eh bien, il les fait attacher à des poteaux et en public, les fait dévorer par des chiens qu'on a au préalable affamés.
Plus de 200 000 Noirs périssent. Mais les troupes de Dessalines résistent et les soldats de Rochambeau subissent l'assaut final au fort de Vertières le 18 novembre 1803.
Cette bataille, c'était la dernière bataille d'une lutte de libération nationale commencée le 22 août 1791.
Pierre Buteau, historien.
Une bataille décisive parce que, en cas d'échec, ça aurait été le maintien du système colonial et le retour à l'esclavage. La victoire est énorme et les acteurs de l'époque ne l'avaient sans doute pas assez mesurée. Pour la France, c'était l'effondrement d'un empire dont le centre était Saint-Domingue.
La capitulation est signée avec Dessalines qui promet qu'on va pouvoir évacuer tranquillement et puis que les blessés seront préservés dans les hôpitaux, qu'on les soignera, etc., etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé finalement. Ça a été un carnage épouvantable.
Dessalines mènera une politique de répression très, très brutale, très violente.
À la différence de Toussaint Louverture, qui avait toujours voulu établir des ponts, des relations avec la France, Dessalines et Christophe, eux, ils veulent une indépendance totale de la France, mais une indépendance qui naît dans le sang.
Dessalines n'hésite pas à faire massacrer la plupart des hommes blancs, des femmes, des enfants.
Donc, ils vont éliminer tous les Français sur l'île. Ils veulent, selon les propres mots de Dessalines, mettre un océan de sang entre la France et Saint-Domingue pour que les Français ne reviennent jamais plus.
Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance de Saint-Domingue, qu'il baptise Haïti, du nom que lui avaient donné ses premiers habitants amérindiens.
Il faut un drapeau à cet nouvel empire haïtien. Il va prendre le drapeau français, il va le déchirer, il va enlever le blanc au centre du drapeau, qui pour lui est le symbole de la monarchie, et il va unir le bleu et le rouge.
Certains disent que ce rouge-là, c'est le sang des esclaves ou le sang de l'ennemi, et que ce bleu-là, c'est le ciel de Saint-Domingue.
Toussaint n'assistera pas à la victoire de ceux dont il a été quand même en grande partie l'artisan. La première révolte de personnes issues de l'esclavage qui constitue une nation et un territoire.
L'avènement d'Haïti est l'une des plus grandes défaites, assez méconnues, de l'histoire de Napoléon Bonaparte.
Bonaparte, dans son bain, se serait exclamé devant ses frères « maudit café, maudit sucre, maudite colonie ».
C'est une défaite qui est lourde dans la rêverie de Bonaparte. Il a perdu Saint-Domingue et le rêve américain.
Et Napoléon va renoncer à son idée d'un empire colonial en Amérique et va vendre la Louisiane à la suite de cette décision.
En fait, Bonaparte n'a pas le choix. S'il ne vend pas la Louisiane, en fait, les Anglais vont s'en emparer.
La Louisiane était une portion gigantesque et bloquait le développement des États-Unis d'Amérique, des 13 colonies qui avaient proclamé leur indépendance.
La jeune République américaine achète cette Louisiane aux Français et commence pour les États-Unis l'expansion vers l'Ouest, et c'est une autre histoire qui, comme ça, démarre.
Devant l'ampleur des dégâts, Napoléon à Sainte-Hélène dira qu'il a fait une grande faute, c'était une folie de reprendre Saint-Domingue et rétablir l'esclavage. En fait, j'aurais dû gouverner par Toussaint.
Il comprend en fait trop tard le message de Toussaint Louverture qui lui disait finalement, si nous sommes autonomes, si nous sommes forts, nous lutterons toujours contre votre ennemi, le pire ennemi, l'Angleterre, et finalement, nous serons toujours quelque part alliés.
Si Napoléon Bonaparte avait un vaste terrain qui s'appelle l'Europe, Toussaint avait une petite île dans la mer des Caraïbes, mais le projet était immense. Et ce n'était pas une conquête. C'était un projet de libération. Il est plus facile de conquérir que de libérer. Bonaparte n'a eu que Toussaint et a perdu Saint-Domingue. Donc Toussaint a gagné.
Nous voici au fort de Joux, dans le Jura, là où Toussaint Louverture a passé ses derniers mois. Ce lieu est l'un des fleurons du patrimoine de Franche-Comté. Il compte 1000 ans d'histoire et a toujours occupé une position stratégique avec ses 5 enceintes fortifiées, dessinées et érigées par Vauban, l'ingénieur militaire du roi Louis XIV. Le château de Joux devient au XVIIIe siècle une prison d'État qui échappe à la justice ordinaire. Le roi, puis plus tard le premier consul, peuvent donc y enfermer les accusés sans procès. C'est exactement le sort que Bonaparte a réservé à Toussaint Louverture. Il arrive dans le Jura le 23 août 1802, en compagnie de son domestique Mars Plaisir, qui sera vite libéré. Il se retrouve donc seul dans une prison escarpée et surtout la plus éloignée possible de la mer. Car en réalité, Bonaparte a très peur que Toussaint ne s'évade. Il envoie ici son aide de camp, le général Caffarelli, pour sonder les intentions du prisonnier et obtenir des révélations. Bonaparte est notamment convaincu, à tort, que Toussaint a caché un trésor et il espère découvrir l'endroit où il se trouve sur l'île de Saint-Domingue. En 2003, pour le bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, un mémorial est construit au pied du château de Joux. Et la République d'Haïti offre un buste sculpté par l'artiste James Mastin. La cellule de Toussaint Louverture. C'est ici que Toussaint est tenu au secret. L'unique ouverture vers l'extérieur a été murée. On surveille Toussaint même quand il se rase, de peur qu'il ne se suicide. Il a connu la guerre, l'agitation, la lumière et les folles chevauchées. Ici, c'est exactement l'inverse. Le silence,
l'obscurité, l'ennui absolu. Il est privé de tout, argent, montre, papier, et nécessaire pour écrire. Et le 7 avril 1803, à 11h30, il est découvert ici, devant cette cheminée, par le commandant du fort, qui écrit dans son rapport, lui portant les vivres, « Je l'ai trouvé mort, assis sur sa chaise, auprès de son feu. » Une autopsie est pratiquée, et c'est bien une pneumonie qui a emporté Toussaint. Il est ensuite enterré ici, dans un caveau situé sous une chapelle qui sera détruite et remplacée par la suite, si bien qu'il est impossible aujourd'hui de dire dans quelle fondation du fort se trouve le corps. Toussaint Louverture a-t-il laissé la liberté en héritage? En tout cas, il n'aura pas vécu l'accession de son île à l'indépendance en 1804. Elle s'appelle désormais Haïti et fait figure d'exception dans un monde où l'abolition de l'esclavage a encore bien du chemin à faire.
L'un des drames de la Première République noire, c'est que personne ne veut la reconnaître, parce que ça met en péril toutes les autres colonies à esclaves, les îles à sucre des autres puissances européennes.
Cette République noire fait peur à tout le monde, donc elle est sous embargo, et les relations sont très difficiles, voire inexistantes, entre tous les voisins.
Si la France ne reconnaît pas le nouvel État, personne ne le reconnaîtra. Donc pendant des années et des années, on ne reconnaîtra pas Haïti, ce sera toujours des brigands révoltés contre leur mère patrie.
Haïti vit totalement isolé pendant 20 années. Durant tout ce temps, les grandes puissances interdisent la traite négrière, mais dans les faits, elles continuent de façon illégale et l'esclavage n'est toujours pas aboli. Il faut attendre 1825 et le règne de Charles X pour que la France s'intéresse à nouveau à son ancienne colonie.
Alors, sous la Restauration, le roi Charles X considère finalement que Haïti, l'ancienne Saint-Domingue, est restée à la France et que finalement il peut en disposer comme il veut. Donc il veut émanciper la colonie et très tardivement reconnaître l'indépendance d'Haïti.
Charles X y accorde très généreusement l'indépendance à ces gens qui sont indépendants depuis 1804. En parlant des anciens habitants de ma colonie de Saint-Domingue, qui n'est plus sa colonie.
Mais évidemment, demande une compensation financière. Et quelle compensation? 150 millions de francs or à régler.
C'est une somme gigantesque, l'équivalent de plusieurs dizaines de milliards d'euros aujourd'hui. Hein. Et c'est plus qu'une indemnité, c'est une véritable rançon qui est demandée à Haïti à ce moment-là.
Une somme qu'elle ne lui devait pas à la base, mais qui a été imposée par la France avec menace de rétorsion militaire si cet argent n'était pas payé.
Rokhaya Diallo, journaliste.
150 millions, c'est la production d'une année de Saint-Domingue à l'époque où elle était prospère. Comme tout a été détruit, ça n'est pas possible. Les Haïtiens vont s'endetter, ils vont emprunter à Paris pour payer les premières annuités.
C'est quand même un chantage qu'il aurait adressé.
Et qu'Haïti a mis plus d'un siècle à rembourser. C'est-à-dire qu'elle a remboursé d'abord la somme principale, puis les intérêts, jusqu'au milieu du XXe siècle.
On a attaqué une petite nation qui n'avait pas la force nécessaire et avec une arme nouvelle qui est l'économie. J'aurais bien aimé voir Toussaint Louverture face à la question de Charles X. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'il aurait trouvé un moyen pour faire face à cette nouvelle façon d'écraser l'autre.
Au cours du XIXe siècle, le nom de Toussaint Louverture est encore dans tous les esprits. L'un de ses fils, Isaac, est en effet devenu le gardien de sa mémoire, celui qui a hérité de son nom et de sa fortune. Installé à Bordeaux, il publie dès 1818 des mémoires et des notes historiques. On y découvre un Toussaint amateur d'omelettes, couchant tout habillé, montant à cheval avec une canne à pommeau d'or et rêvant de partir libérer l'Afrique. Isaac cherche sans relâche des informations sur son père et compte, parmi ses contacts, des admirateurs de Toussaint comme l'abbé Grégoire et un certain Victor Schœlcher.
Victor Schœlcher, c'est un homme issu d'une famille alsacienne, dont le père dirige une fabrique de céramique.
Enfin, c'est pas l'homme dont on aurait pu attendre que vienne l'abolition de l'esclavage. Dans les années 1820, c'est plutôt un mondain.
Il fréquente les musiciens, les écrivains.
C'est quelqu'un qui se préoccupe pas vraiment de cette question. Ce n'est pas un nouvel abbé Grégoire.
Le berceau de la famille de Victor, c'est la ville de Fessenheim. Un musée y porte son nom et expose la porcelaine estampillée Schœlcher. Pour la vendre, le fiston a parcouru le monde aux côtés de son père.
Donc, il va faire ce premier voyage aux Amériques. Il y va pour vendre la porcelaine familiale de la manufacture Schœlcher.
Anissa Bouyed, responsable de l'espace muséographique Victor Schœlcher.
Il visite Cuba, la Havane et la Louisiane. Et c'est là-bas, en fait, qu'il va voir l'esclavage de ses propres yeux, qu'il va être témoin direct, notamment des conditions de travail dans les plantations, des punitions corporelles infligées aux esclaves. Dès son premier voyage donc aux Amériques, il va réussir à publier des lettres dans la Revue de Paris. On retrouve des auteurs comme Balzac, Flaubert qui publient. Et donc Victor Schœlcher va tout d'abord publier une première lettre où il dénonce publiquement l'esclavage qui s'appelle « Des Noirs ». Ce qui est novateur dans cet article, c'est que Schœlcher, lui, est sur place. Il observe, il va rencontrer également des maîtres, il discute avec la population. Ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Faut savoir qu'en métropole, les colons ont des soutiens. Ils disent que les esclaves dans les colonies sont beaucoup mieux traités que les ouvriers ou les prolétaires en Europe. Donc les gens qui sont en métropole peuvent croire à cela parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans les colonies. Donc Schœlcher, lui, il va là-bas et il va démontrer avec des faits que ces arguments sont faux.
En 1840, lors de son second voyage aux Antilles, Victor Schœlcher assiste à une vente à la criée d'esclaves. Ils sont vendus comme des meubles.
On présente les hommes, on joue aux enchères, la vie de ces gens, on les achète comme du bétail. Victor Schœlcher est absolument bouleversé.
Quand il a assisté à cette vente à la criée d'esclaves, il s'est passé un déclic chez lui, comme si il avait traversé une ligne, quelque chose qui était inacceptable, qu'il ne pouvait pas continuer sa vie, cette vie un peu bourgeoise, lascive, tant que cette question n'était pas réglée.
Il n'est plus pour une abolition progressive, il est pour une abolition définitive et tout de suite. Cette vente, finalement, qu'il va raconter dans ses écrits, dans son journal, va le faire basculer, et faire basculer beaucoup d'autres, parce qu'on va prendre la mesure de l'horreur de cette situation, et dans une société qui tout de même a évolué.
Je pense que Victor Schœlcher a effectivement fait son chemin, mais il est le fruit d'une époque également. C'est-à-dire que sans le contexte, il n'y a pas de Victor Schœlcher.
On est en train de passer, au cours du 19e siècle, à une autre société, un autre monde moderne qui est en train de naître, c'est-à-dire une société plus industrielle, mais aussi plus de services, et dans lequel, finalement, on commence à réaliser que, eh bien, un travailleur forcé est moins productif qu'un travailleur rémunéré. Et si on pousse la logique encore plus loin, ne pas rémunérer un travailleur, c'est ne pas en faire un consommateur.
Mais ce nouveau monde tarde à abolir pour de bon l'esclavage. Il faut une nouvelle révolution pour accélérer le mouvement en février 1848.
C'est seulement avec la révolution de 1848 et le gouvernement provisoire de Lamartine, Ledru-Rollin, Arago et Louis Blanc que les choses vont avancer. Et là, nous voyons à nouveau apparaître Victor Schœlcher, qui va être nommé sous-secrétaire d'État, responsable de ces questions.
On ne peut pas être dans un régime humaniste, libéral en France, si l'esclavage continue aux Antilles, ce n'est plus possible. Donc la loi de Victor Schœlcher s'impose, et il a fait voter finalement assez facilement. Et enfin, la France abolit pour la deuxième fois. La France tourne le dos définitivement à l'esclavage, et heureusement, on n'y reviendra plus dans les régimes qui vont suivre.
Aux Antilles, en particulier en Martinique, les esclaves se soulèvent pour que le décret soit appliqué immédiatement.
Mais comment voulez-vous que les gens attendent ? Ça n'est pas possible. On leur dit que c'est illégal, que c'est infamant, que c'est un crime contre l'humanité. Mais ce sont des mots. Eux, ils sont esclaves et du jour au lendemain, ils peuvent se faire fouetter.
Et ce décret, en revanche, ne prévoit pas de compensation pour les victimes.
Schoeffler a perdu la question de l'indemnisation des esclaves, parce que si dans la loi, les colons sont indemnisés, on a prévu de les indemniser, c'est le gouvernement qui peut décider, hein, pour les esclaves, il n'y a rien.
Et ne pas penser au dédommagement des esclaves pour ce qu'ils ont subi, qui ont subi la dépossession de leur propre humanité, qui ont travaillé gratuitement, qui finalement se retrouvent avec une citoyenneté, mais sans aucun bien, sans aucun revenu.
Ils sont libérés, mais enfin, ils sont libérés, si je puis dire, nus et sans ressources.
Toute sa vie, Victor Schoelcher reste préoccupé par le sort des anciens esclaves, comme le montre son ultime ouvrage.
Il reste toujours fidèle à ses idées. Il va publier une vie de Toussaint Louverture au moment du centenaire de la Révolution française.
L'abolition était partie de Saint-Domingue et donc en grande partie de Toussaint Louverture. Et c'est Victor Schoeffler, le véritable abolitionniste, qui écrit une vie de Toussaint Louverture. Donc en quelque sorte, la boucle est bouclée.
Bien sûr, et il exprime là aussi un sentiment de reconnaissance à l'égard de Toussaint, qui devient un héros haïtien, sans doute, il l'est déjà dès le départ, mais aussi un héros français.
Après la mort de Toussaint Louverture, il aura fallu attendre 45 ans pour que l'esclavage soit définitivement aboli par la France. 45 années de lutte pour une cause dont le Panthéon a peu à peu célébré en son sein tous les héros.
Tout au long de l'histoire, la République a souhaité honorer les hommes qui se sont battus pour l'abolition de l'esclavage.
David Madec, administrateur du Panthéon.
D'abord Victor Schoelcher, en 1949, suivi par deux membres de la Société des Amis des Noirs à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, l'abbé Grégoire et Condorcet. Puis, à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, deux plaques sont apposées, la première pour Louis Delgré qui s'est battu en Guadeloupe et la seconde pour Toussaint Louverture.
Entre ici, Toussaint Louverture, avec ton cortège d'ombre. Les gens n'y croient pas. Hein. Vous savez que les gens qui nous écoutent là ne peuvent pas croire qu'un petit négrillon vivant sur une plantation d'esclaves dans cette condition de Saint-Domingue, n'étant connu de personne, puisse devenir général de division, général en chef des armées françaises à Saint-Domingue, gouverneur général, écrire une constitution pendant l'esclavage et rester jusqu'à présent vivant dans la mémoire humaine. Ce n'est pas une affaire de noir, ce n'est pas une affaire d'esclave, c'est la possibilité qu'a tout être humain de rompre toutes les chaînes. Si ces gens-là ont pu faire ça, nous pouvons faire ça.
Selon l'Organisation internationale du travail, affiliée à l'ONU, on compte aujourd'hui encore 40 millions d'esclaves dans le monde. Un esclavage moderne, certes différent de celui qu'ont combattu Toussaint Louverture, Solitude, l'abbé Grégoire ou Victor Schoelcher, mais le message reste le même. C'est celui que Toussaint aurait délivré après son arrestation, le jour où il embarque pour la France. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secrets d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Bruno Deltombe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.